La fin de 3 jours de procès pour 6 membres de Calédonie Ensemble, dont Philippe Gomez et Philippe Michel. Ils sont jugés en appel pour des soupçons d'emploi fictif de 40 collaborateurs wallisiens et futuniens entre 2014 et 2018. Première séance technique ce matin pour la nouvelle assemblée de la province sud. Objectif, poursuivre la mise en place du fonctionnement de l'institution. Des signaux plutôt encourageants du côté du tourisme. D'après les derniers chiffres, la fréquentation augmente, même si elle reste loin de celle de 2023. Timbres, pièces de monnaie, coquillages, le salon des collectionneurs ouvre ses portes demain à Nouméa. Pendant 3 jours, les passionnés partageront leurs trésors autour du thème de l'école d'antan. Et puis le sport, pas de Super League et de Coupe de Calédonie au stade Nouma Délé. Le gouvernement a fermé l'accès à la suite des intempéries. La FCF doit s'adapter. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une ce soir, l'actualité judiciaire et je le disais en titre, la fin de 3 jours de procès pour 6 membres de Calédonie Ensemble. Ils sont jugés en appel pour des soupçons d'emploi fictif de 40 collaborateurs wallisiens et futuniens entre 2014 et 2018. Le ministère public a requis la confirmation des peines prononcées en première instance. On retrouve Léana Colombo en direct du tribunal de Nouméa. Bonsoir Léana.
Bonsoir Léo, et oui, le procès vient tout juste de se terminer. L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre. Je rappelle qu'en tête d'affiche dans ce dossier, il y a Philippe Gomez et Philippe Michel. Il y a un an, les deux hommes avaient respectivement été condamnés à 4 ans et 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Une hérésie pour leurs avocats. Pour maître Frédéric de Grélan, le dossier infuse d'une erreur juridique. Les collaborateurs travaillent pour un groupe politique et non pour un parti unique ou une institution. Ce procès a détruit la carrière politique des prévenus en partant de postulats erronés, a-t-il déploré lors de sa plaidoirie. Pour la défense, pas de doute, les réunions hebdomadaires avec les collaborateurs wallisiens et futuniens ont bien eu lieu et avec une réelle utilité. Ce que remettait ce matin en cause l'avocat général Pierre-Yves Michaud avant ses réquisitions, parce que c'est bien là le cœur du débat dans ce procès. À quoi ont servi les fonds publics et les missions des collaborateurs? Étaient-elles politiques? Eh bien oui, mais ces réunions et remontées d'informations suffisaient-elles pour une contrepartie légale? Ou ce jeu politique est-il un détournement de fonds publics? On reproche aux collaborateurs de faire des choses en rapport avec la politique, mais si ces missions s'éloignent trop, alors on dit qu'il y a détournement. C'est indigné Maître Le Borgne, l'un des deux avocats de Philippe Gomez dans cette affaire. Concernant les autres prévenus, 2 ans de prison avec sursis ont été requis pour Tutita Siolagadec et 18 mois avec sursis pour Sili Peleto Mouliakaaka, décrit à plusieurs reprises comme le lanceur d'alerte dans cette affaire. Enfin, la relaxe a été requise pour Martine Agneau et Marie-Christine G. La Cour a donc mis l'affaire en délibéré. Son arrêt sera rendu, je le rappelle, le 22 septembre. Depuis le palais de justice, Léana Colombo, RRB.
Merci Léana, et nous reviendrons bien évidemment sur ce procès dans nos prochaines éditions. Une séance technique ce matin pour l'Assemblée de la Province Sud, une première depuis l'installation du nouvel exécutif, c'était le 3 juillet dernier. Il s'agit de continuer la mise en place du fonctionnement de l'institution. 3 délibérations figuraient à l'ordre du jour. La charte déontologique des élus a été présentée et ensuite les conseillers ont adopté le règlement budgétaire et financier de la collectivité. Ils ont ensuite donné délégation à la présidente pour préparer, passer et exécuter des marchés publics. Sonia Baquès, présidente de la Province Sud.
C'est une assemblée technique de mise en place, notamment sur les marchés publics, qui permet tout simplement à la collectivité de mettre en place ses investissements, de dépenser finalement l'argent qui est prévu au budget d'une part en interne à la collectivité, d'autre part l'argent de l'État. Et en parallèle, on est très attaché à ce qu'il y ait le plus de transparence possible, donc en amont avec des commissions d'appel d'offres et tout qui est traité sur la base de barèmes complètement transparents, et d'autre part en aval avec une publication de l'ensemble des marchés qui sont attribués par la province.
Et au cours de cette séance, Sonia Baquès est revenue sur la vague 2 du plan de relance de l'État. La province va bénéficier de 2 milliards de francs. L'objectif pour Sonia Baquès est de lancer rapidement les chantiers.
L'État n'a choisi que des projets sur lesquels on est déjà très avancé et en fait on peut quasiment lancer les travaux tout de suite. L'objectif de cette partie plan de relance investissement public de l'État, c'est de faire le tuilage entre la situation actuelle où on a très peu d'investissements, donc des sociétés notamment de BTP qui ne travaillent pas, et le moment où on va avoir un vrai redémarrage économique du privé qu'on estime à fin 2027, début 2028. Donc l'idée, c'est vraiment que cet argent de l'État, les 10 milliards en totalité, 2 milliards pour la province sud, soit dépensé le plus rapidement possible pour finalement permettre de compenser l'absence d'investissement privé en investissement public. Donc nous, notre job, c'est de dépenser cet argent, de faire travailler les sociétés calédoniennes, de finalement leur permettre aussi de retrouver des ressources humaines, parce que certains ont débauché, donc de retrouver des ressources humaines pour être en capacité, quand on aura la relance privée dans sa pleine capacité, qu'elles étaient capables de monter en puissance.
La province sud va pratiquer l'allotissement sur les marchés publics afin de les fractionner, de permettre aussi aux petites entreprises d'y répondre. On signalera que la province a battu un record en termes de délai de paiement au mois de juin dernier. Les factures des entreprises qui travaillent sur les marchés publics ont été réglées en moyenne en 10 jours. Et enfin, dernier point à l'ordre du jour de cette séance, la désignation des représentants de la province au sein des établissements, des organismes et des instances dans lesquelles elle siège en fonction de la représentativité des groupes politiques. Pour le secteur du BTP, la vague 2 du plan de relance est une bouffée d'oxygène, mais c'est notoirement insuffisant. C'est ce que déclare Éric Laffitte, le président de la Fédération calédonienne du BTP. Il était votre invité à 7h30 ce matin, Jean-François Bonnet.
Le BTP est l'un des secteurs les plus touchés, avec la perte de 2000 emplois depuis 2024. Et aujourd'hui, les entreprises dépendent quasi exclusivement du marché public. Pour autant, la vague 2 du plan de relance, qui a retenu 50 opérations pour un montant de 10 100 millions, suscite plusieurs inquiétudes, nous a dit Éric Laffitte.
Grosso modo, on a deux inquiétudes par rapport à l'utilisation de tout ce budget. Le premier, c'est que pour des raisons budgétaires, forcément, les projets doivent absolument être lancés avant la fin de l'année. Donc ça implique un appel d'offres aux alentours d'au plus tard fin septembre, de façon à laisser toutes les procédures d'études, administratives, etc. avant de monter en marché et lancer le chantier. Donc fin septembre, c'est bientôt. Donc notre première inquiétude, c'est que tout soit lancé avant fin septembre. Et la deuxième inquiétude, c'est les 5 milliards qui restent. On ne peut pas se permettre de les perdre. Il faut que ces 5 milliards sortent aussi au plus vite et donne lieu à des appels d'offres, à des chantiers.
Les vagues 1 et 2 du plan de relance représentent quelque 17 milliards injectés par l'État. Il reste donc encore 5 milliards qui devront être consacrés à la vague 3. Et le secteur du BTP l'attend avec impatience. Même si, paradoxalement, cet afflux d'opérations et d'appels d'offres crée aussi un problème à des entreprises complètement déstructurées.
Il va y avoir beaucoup d'appels d'offres les uns derrière les autres tous les jours. Donc effectivement, il faut bien imaginer que maintenant, quelqu'un qui est quasiment artisan avec son équipe, s'il a 3 appels d'offres à répondre dans la semaine, il ne va pas y arriver. On a le même sujet sur des nouveaux travaux, c'est-à-dire que les entreprises sont tellement déstructurées, de la même façon, des clients ne comprennent pas que tout d'un coup on donne un chantier supplémentaire à une entreprise, elle dit je peux pas faire. Ben non, parce que quand effectivement les entreprises, on avait une structure, il y avait du monde dans l'entreprise, on pouvait jongler, on pouvait être réactif. Là maintenant, c'est compliqué. Donc un autre souci, effectivement, c'est la possibilité de répondre des appels d'offres, et j'anticipe là-dessus, effectivement, des réactions. Il pourrait y avoir certains appels d'offres, il n'y a pas eu beaucoup de réponses, etc. C'est parce que tout simplement, les chefs d'entreprise n'ont plus la capacité forcément de répondre à tout.
Une interview d'Éric Laffitte, le président de la Fédération calédonienne du BTP, qui est à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Et puis, notez ce rendez-vous d'antenne, c'est le haut-commissaire Jacques Billan qui sera demain l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Le représentant de l'État sera essentiellement interrogé sur la sécurité publique et sur la lutte contre la délinquance, mais aussi sur l'aide de l'État et sur la vague 2 du plan de relance et qui a été annoncé la semaine dernière. Le haut-commissaire Jacques Billan, invité de Transparence, c'est donc à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. D'abord, 69% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la construction de la nouvelle prison va aller à son terme après l'inscription au budget 2027 de la justice des études préalables à sa réalisation. Ils sont 31% à rester sceptiques sur la concrétisation de ce nouvel établissement. Notre question du jour, à présent, le dispositif prêt d'honneur lancé par la province sud peut-il, selon vous, contribuer efficacement à la relance économique ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et puis, en bref, avant de marquer une première pause dans ce journal, le président des LR, Bruno Retailleau, condamne les ingérences de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, l'ancien ministre de l'Intérieur dénonce les déclarations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev concernant la Nouvelle-Calédonie. Elle constitue, écrit-il, une très grave ingérence dans les affaires intérieures françaises. La Nouvelle-Calédonie est française, déclare Bruno Retailleau. C'est ce que les Calédoniens eux-mêmes ont décidé à 3 reprises par référendum. référendum. Ils savent bien que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne peut reposer que sur l'entente entre eux et qu'il leur appartient de décider de leur avenir. Le président DLR conclut en ajoutant que la France n'a aucune leçon à recevoir de M. Aliyev, qui foule quotidiennement au pied les droits de l'homme dans son propre pays. Fin de citation. 17h56, on se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Info Soir.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Paiement par téléphone, gratuit et sécurisé. Munissez-vous de votre carte bancaire et de votre dernière facture. Appelez le 05 36 36, c'est gratuit. Service ouvert de 7h25 à 16h ou 15h le jeudi et le vendredi. Tous les services sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Info Soir, Léo Fichou.
Des signaux plutôt encourageants du côté du tourisme. Les derniers chiffres attestent d'une fréquentation touristique du territoire en augmentation, même si elle reste loin de la fréquentation de 2023, dernière année de référence. Le tourisme était au cœur des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi, Jean-François.
À peine remis de la crise Covid, le secteur du tourisme a été mis à mal par l'insurrection de 2024, un coup dur qui a pesé sur les prestataires et les acteurs du tourisme. 2025 a été une année encore très compliquée, d'autant que certains pays de la zone déconseillaient la destination Nouvelle-Calédonie à ses ressortissants pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, les choses bougent et les chiffres l'attestent, a expliqué Julie Laronde, la directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme.
On a des indicateurs plutôt positifs. Pour remettre des éléments de contexte, à fin d'année dernière, on était à 47% de reconquête des flux touristiques internationaux de 2023, puisque c'est la dernière année de référence. À fin mai, nous sommes à 56% de reconquête des flux internationaux. Donc on est sur une pente ascendante. C'est pas toujours suffisant pour les prestataires locaux, puisqu'il y a toujours des problèmes de trésorerie, mais on est sur la bonne voie. Nous travaillons sur trois marchés nous prioritaires cette année. C'est la métropole, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La métropole, à fin mai, on est à 66% de reconquête. L'Australie à 45%. Alors qu'en fin d'année dernière, on était à 38%, et la Nouvelle-Zélande, ça repart à 31%. C'est un petit peu en décalage, puisque les conseils aux voyageurs officiels des ministères des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande avaient levé leur niveau d'alerte que seulement en novembre dernier.
La province sud regroupe 80% de l'offre touristique et constate effectivement une fréquentation en hausse. La clientèle locale, elle aussi, manifeste à nouveau son intérêt pour les offres.
Il y a des touristes étrangers de plus en plus qui arrivent, donc on les capte. Et puis, pour les habitants et nouveaux arrivants, un regain d'intérêt sur l'offre touristique locale et la redécouverte de leur territoire. Donc, le sentiment de fierté du territoire, l'envie de repartir découvrir les différentes communes de la province sud et les différentes offres touristiques. En office de tourisme, par exemple, l'année dernière, on avait accueilli un peu plus de 40 000 visiteurs. On est à près de 22 000 pour le premier semestre 2026, avec 60% de visiteurs locaux. Donc il y a une demande en tout cas qui revient progressivement, mais en tout cas qui est bien marquée aujourd'hui.
Eugénie Carlo, la directrice de Sud Tourisme. Les prestataires touristiques ont dû faire le dos rond en attendant cette reprise, timide mais réelle. Il faut pour cela s'adapter en permanence, a expliqué Greg Potier, le gérant de Sud Loisirs. Son entreprise propose des activités plein air au Pont Pérignon, au parc de la Rivière Bleue. Sur les boucles de Tina, son activité a été mise à mal lors des émeutes.
On a fait une promotion au niveau du Salon du Tourisme, une promotion légère de 10%, et on a été vraiment surpris de l'engouement. La population est réceptive et même si c'est des petites économies, ils investissent, et c'était pour des réservations à plusieurs mois, pour le mois d'août. Donc on a été satisfait à ce niveau-là. Il n'y a pas quand même que le prix dans les prestations. Nous, on voit que les gens ont besoin d'accompagnement, de connexion. Par exemple, au Parc de la Rivière Bleue, maintenant, on propose des sorties encadrées. Un moniteur sur une demi-journée, une journée, et voilà. C'est au tarif de la location, mais on fait cet effort et ça se passe super bien, on a des super retours, et voilà, faut vraiment se réinventer en continu, et on va aller dans ce sens-là.
Des extraits des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu qui sont à retrouver dans leur intégralité sur notre site internet rrb.nc.
Un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end, la 26e édition du Salon des collectionneurs qui ouvrira ses portes demain à la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Un événement incontournable organisé par le groupement philatélique Le Cagou en partenariat avec l'OPT. Cette année, des objets à découvrir, cartes, livres, souvenirs et bien d'autres trésors. Les précisions de Jacques Esposito, collectionneur d'objets publicitaires et de pièces de monnaie.
Cette année, il y a au salon des stands qui sont dédiés aux jeunes collectionneurs. Donc il y a des figurines, des mangas. Il y a cette volonté d'offrir des nouvelles collections à un public plus jeune. Mais il y a un renouvellement. Donc on a chaque année 5 à 6 nouveaux exposants qui proposent leur collection et des exposants qui sont un peu plus jeunes que les années précédentes. Il faut essayer de trouver des objets qui ne sont pas trop chers, mais après c'est vrai quand on se prend au jeu, on a tendance à vouloir mieux. D'où l'intérêt de ce genre d'événement, c'est où on peut revendre nos doubles ou des collections qu'on abandonne pour se centrer sur notre collection de cœur. Malgré ce qu'on peut croire, on accumule, on se sépare et on achète de plus belles pièces, etc.
Le salon des collectionneurs ouvrira ses portes demain et jusqu'à dimanche de 8h à 18h dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. L'entrée sera gratuite. 18h passées d'une petite minute. Seconde pause dans ce journal, on parlera sport juste après.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus, envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 7 août à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 40-20.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
Le 24 juillet 2027 sera donné le coup d'envoi des Jeux du Pacifique en Polynésie française, à un an de l'échéance. Où en est la préparation de la délégation calédonienne? Nous poserons la question demain à Christophe Dabin, président du CTOS Nouvelle-Calédonie. Il sera notre invité à 7h30. L'occasion également d'évoquer avec lui le premier forum des athlètes de Nouvelle-Calédonie organisé ce samedi au 6 de Dumbéa. Du football sur le territoire, le stade Noumadélé fermé jusqu'à nouvel ordre. À la suite des intempéries du week-end dernier, le terrain a subi d'importants dégâts et ne permet plus d'accueillir les différentes rencontres prévues dans les prochains jours. Une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La Fédération calédonienne de football doit donc s'adapter. Écoutez Steve Laigle, président de la FCF.
Oui, on est obligé de s'adapter. Donc les matchs de coupe, on l'a déjà fait, on s'est adapté, on a été joué sur des terrains secondaires et de repli. Et puis ben, le championnat, on va faire pareil, on n'a pas le choix. C'est une situation que je pense tout à fait normale parce que si on continue à exploiter le terrain, on risque de perdre définitivement la pelouse et il ne faut pas en arriver là, quoi. Pour le moment, on nous a dit une semaine complète. Une chose qui est bien aussi, c'est que ça va permettre de la travailler, de la soigner. Et puis avec la pluie qu'il y a eu et puis le soleil, qu'elle puisse retrouver un état correct. S'il faut attendre 2 semaines, eh ben on attendra 2 semaines et puis on n'a pas le choix, hein, de toute façon.
Ce sont des solutions à court terme, à long terme. Il faut peut-être revoir la pelouse. Il y avait eu des discussions pour qu'elle soit changée. Où on en est de tout ça?
Elle a prévu d'être rénovée entièrement en 2027. Donc nous, on doit déjà s'adapter et préparer la saison 2027 puisque le stade Noumadélé sera fermé pour toute l'année. Donc on est en train de travailler justement avec les mairies de Dumbéa et de Païta pour voir comment on peut faire pour accueillir les championnats l'année prochaine. On est déjà dans cette préparation-là.
Et ce week-end, une seule rencontre de Super League est maintenue. L'AS Mondor recevra Tigaspor au stade Victorin Bueva dimanche à 13h. Le reste de la 15e journée est reporté, tout comme les 8e de finale de Coupe de Calédonie qui n'avaient pas pu se jouer le week-end dernier. Football toujours, mais dans la région cette fois. Joseph Attalé, qui portait les couleurs de Tahiti United depuis l'an dernier, s'est engagé avec le Rewa FC. Le Calédonien et son nouveau club, vainqueur de la Fidji Premier League, disputeront dans quelques jours la Ligue des Champions d'Océanie et pourraient se retrouver face à Tigaspor, vainqueur de la Super League en septembre dernier. Début de la compétition, ce sera le 9 août aux Fidji. Et puis on termine en métropole pour parler golf. On continue de suivre les championnats de France des moins de 12 ans sur les greens du domaine du Gouverneur, c'est au nord de Lyon. Près de 150 jeunes sont engagés et parmi eux, Jean-François, deux Calédoniens.
Oui, il s'agit de Tiffen Dagorneleka du golfe de la Wengi chez les filles et de Martin Rouvérol, licencié au golfe de Tina chez les garçons. Depuis lundi, ils se confrontent aux meilleurs joueurs golfeurs français de leur catégorie d'âge et tous les deux se sont qualifiés pour les match-play. Au premier tour de ces match-play, les 16e de finale, Martin s'est imposé 3-2 sur Jack Smith du golfe de Saint-Malo. À partir de 19h30 ce soir, il affrontera le Corse Louis Palmiers du golfe de Speronne en 8e de finale. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée en 16e de finale pour Tiffen. Elle s'incline au terme d'un duel très serré contre Alix Germain du golfe de Guérande. Les deux joueuses se sont départagées au 20e trou.
Merci beaucoup Jean-François. 18h passées de 6 minutes. Après le sport, la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et Enguea. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Et la météo, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Cette nuit, le ciel est très nuageux sur la pointe sud et le sud-est avec quelques averses, plutôt en début de nuit. Ailleurs, les passages nuageux et éclaircis alternent avec une averse possible au Loyautés et sur le nord-est. Le nord-ouest semble quant à lui plus dégagé. Le vent s'oriente au secteur est pour des valeurs qui restent comprises entre 15 et 20 nœuds en soirée. Puis progressivement 10 à 15 nœuds, la côte ouest se retrouve souvent déventée. Les températures de la nuit, elles descendent autour de 10 à 12 degrés dans l'intérieur et marée. Ailleurs, elles sont comprises entre 15 et 20 degrés.
Merci beaucoup Ismaël, 18h07, c'est la fin de cette édition. On se retrouvera à 19h pour le rappel des titres. En attendant, vos rendez-vous d'antenne Europe 1, le journal suivi de l'interview.